Il faut d'abord, à mon avis, se poser cette double question. En quoi consiste ce qui existe toujours sans avoir eu de naissance? En quoi consiste ce qui devient toujours et n'est jamais? Le premier est appréhensible à la pensée aidée du raisonnement, parce qu'il est toujours le même. Tandis que le second est conjecturé par l'opinion accompagnée de la sensation irraisonnée, parce qu'il naît et périt, mais n'existe jamais réellement. De plus, tout ce qui naît procède nécessairement d'une cause, car il est impossible que quoi que ce soit prenne naissance sans cause. Lors donc que l'ouvrier, l'œil toujours fixé sur l'être immuable, travaille d'après un tel modèle et en reproduit la forme et la vertu, tout ce qu'il exécute ainsi est nécessairement beau. Si au contraire il fixe les yeux sur ce qui est né et prend un modèle de ce genre, il ne fait rien de beau. Quant au ciel entier, ou monde, ou s'il y a quelque autre nom qui lui soit mieux approprié, donnons-le lui. Il faut, en ce qui le touche, se poser d'abord la question qu'on doit se poser dès le début pour toute chose. A-t-il toujours existé, sans avoir aucun commencement de génération? Ou est-il né et a-t-il eu un commencement? Il est né, car il est visible, tangible et corporel, et toutes les choses de ce genre sont sensibles. Et les choses sensibles, appréhensibles à l'opinion accompagnée de la sensation, sont, nous l'avons vu, sujette au devenir et à la naissance. Nous disons d'autre part que ce qui est né doit nécessairement sa naissance à quelque cause. Quant à l'auteur et père de cet univers, il est difficile de le trouver, et après l'avoir trouvé, de le faire connaître à tout le monde. Il est une autre question qu'il faut examiner à propos de l'univers, à savoir d'après lequel des deux modèles son architecte l'a construit, d'après le modèle immuable est toujours le même ou d'après celui qui est né. Or, si ce monde est beau et son auteur excellent, il est évident qu'il a eu les yeux sur le modèle éternel. S'ils sont au contraire ce qu'il n'est même pas permis de dire, c'est sur le modèle qu'il est né. Il est donc clair pour tout le monde qu'il a eu les yeux sur le modèle éternel. Car le monde est la plus belle des choses qui sont nées, et son auteur la meilleure des causes. Donc si le monde a été produit de cette manière, il a été formé sur le modèle de ce qui est compris par le raisonnement et l'intelligence, et ce qui est toujours identique à soi-même. Dans ces conditions, il est aussi absolument nécessaire que ce monde-ci soit l'image de quelque chose. Or, en toute matière, il est de la plus haute importance de commencer par le commencement naturel. En conséquence, à propos de l'image et de son modèle, il faut faire les distinctions suivantes. Les paroles ont une parenté naturelle avec les choses qu'elles expriment. Expriment-elles ce qui est stable, fixe et vide à l'aide de l'intelligence? Elles sont stables et fixes et, autant qu'il est possible et qu'il appartient à des paroles d'être irréfutables et invincibles. Elles ne doivent rien laisser à désirer à cet égard. Expriment-elles au contraire ce qui a été copié sur ce modèle et qui n'est qu'une image? Elles sont vraisemblables et proportionnées à leur objet, car ce que l'être est au devenir, la vérité l'est à la croyance. Si donc, Socrate, il se rencontre maint détail en maint question touchant les dieux et la jeunesse du monde, où nous soyons incapables de fournir des explications absolument et parfaitement cohérentes et exactes, n'en sois pas étonné. Mais si nous en fournissons, qui ne le cède à aucune autre invraisemblance, il faudra nous en contenter en nous rappelant que moi qui parle, et vous qui jugez, nous ne sommes que des hommes, et que sur un tel sujet, il convient d'accepter le mythe vraisemblable sans rien chercher au-delà.